Bonsoir à tous. Donc je suis avec Frédéric Buzaret pour c'est la deuxième conférence téléphonique que nous faisons donc sur le Brexit. La première, finalement, c'était il y a quelques semaines et on avait parlé un peu de la situation. C'était finalement avant la confirmation qu'il y aurait un référendum. Notre objectif aujourd'hui, c'est plus de parler de ce qui va se passer après. Parce que je dirais, et tu me le faisais remarquer, que contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensent, le plus dur, en fait, va commencer après, probablement, la signature donc d'un accord qui ne reste que, finalement, le début de négociation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Donc, on sait maintenant qu'il va y avoir un référendum le 12 décembre. On a une date butoir qui est le 31 janvier 2020. Alors, qu'est-ce que disent les sondages sur le référendum, peut-être, pour commencer ?
Le référendum aura lieu si le Parti travailliste l'emporte. Jeremy Corbyn a promis qu'il ferait un référendum qui donnerait le choix entre un soft Brexit et
Non, je ne parle pas du excuse-moi. Je parle des élections générales, pas du référendum,
d'accord,
bien sûr.
Donc, les élections générales qui auront lieu le 12 décembre, pour la première fois en hiver depuis 1924. Les derniers sondages donnent entre 10 et 12 points d'avance au Parti conservateur, donc une très large avance. Et on voit que cette avance a tendance à se faire au détriment du parti Brexit de Nigel Farage, qui est un parti populiste, extrémiste au Royaume-Uni. Donc 10 à 12 points à peu près 3 semaines de l'échéance, ça reste confortable. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, Theresa May avait aussi organisé des élections anticipées qui lui donnaient une très large avance et qu'elle avait fini par avoir perdu ces élections et qu'elle était devenue otage justement de ce fameux parti unioniste nord-irlandais, le DUP. Donc plus on va se rapprocher de l'échéance, à peu près à 10 jours près, on va dire la pertinence des sondages deviendra plus précise et plus fiable.
Alors il y a un sondage qui a été publié hier par le Times, hein, qui donne 42% pour les conservateurs, 30% pour le Labour. 42%, ça suffit pour avoir la majorité ?
Ça suffit largement pour avoir la majorité, qui est à 320 sièges. Mais encore une fois, ce qui sera important, c'est de voir si le Parti conservateur est capable de regagner des voix dans le nord d'Angleterre, qui est le bastion travailliste. Et c'est un suffrage à un tour, donc parfois il peut y avoir un décalage entre les prévisions de sièges et de voix, mais 10-12% d'avance, c'est largement en principe suffisant.
Il y a une sorte d'accord entre Farage et Boris Johnson, en fait, est-ce que tu peux l'évoquer ?
Oui, effectivement. En fait, Farage voulait un accord électoral avec le Parti conservateur et Boris Johnson a tenu, il a refusé cet accord et dans la foulée, Farage a fait une fleur, on va dire, au Parti conservateur en décidant de ne pas présenter de candidat dans toutes les circonscriptions qui avaient été gagnées par les conservateurs en 2017. Et donc, il ne présentera que des circonscriptions où il y a une bataille qui est ouverte entre le Parti travailliste et le Parti conservateur. Donc, c'est quand même un gros plus pour le Parti conservateur. Et on a vu qu'à la suite de cette décision, l'avance des conservateurs avait augmenté dans les sondages.
Bon, alors aujourd'hui, on va dire que les conservateurs ont probablement la majorité après cette élection générale. Après, qu'est-ce qui se passe alors jusqu'au 31 janvier, en fait ?
Donc, l'élection a lieu le 12. Dans la foulée, on commence une nouvelle session parlementaire. C'est important de le préciser, c'est chaque député conservateur s'est engagé à soutenir et à voter pour l'accord de retrait qui avait été négocié par Boris Johnson et l'Union européenne au cours du mois d'octobre. Ça veut dire que la question est de savoir si cet accord de retrait est voté avant Noël ou s'il faut attendre le mois de janvier. Donc ça dépendra du calendrier parlementaire. Mais ça veut dire que, en théorie, si Boris Johnson gagne les élections le 31 janvier 2020, l'Angleterre sort enfin de l'Union européenne et le Brexit a lieu.
Oui, donc pas un Brexit hard, hein, une sortie comme le disait l'autre jour, je crois, Monsieur Barnier, une sortie organisée, en fait.
Une sortie organisée.
Bon, donc, toi, tu penses que la date du 31 janvier sera respectée ou il y a une probabilité qu'elle puisse être reportée à nouveau ?
Il faudrait vraiment qu'on ait une énorme surprise électorale au soir du 12 décembre pour que cet accord qui avait été négocié au mois d'octobre ne soit pas voté. Ce serait une énorme surprise. Donc on va dire c'est vraiment pas le scénario central.
Donc ta lecture, c'est que la date du 31 janvier tient toujours, en fait, et que donc, effectivement, on va avoir un avant et un après 31 janvier. Et on est là, en fait, pour parler avec toi de l'après 31 janvier. On va essayer de se projeter, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. En fait, on parle beaucoup de ces élections générales, on parle beaucoup de cette date butoir, et on parle peu de l'après 31 janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, après le 31 janvier ? Je lisais un article sur un débat qui a eu lieu hier entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn, paraît-il un débat qui aurait duré une heure, entre un Boris Johnson qui disait que les négociations seraient terminées d'ici décembre 2020 et un Jeremy Corbyn qui disait qu'il faudra minimum 7 ans. Alors, on passe dans quoi, en fait ? On arrive dans quel est le calendrier ?
Alors, on a eu la phase 1 qui aurait dû se terminer le 31 mars 2019 et qui, donc là, se terminerait le 31 janvier 2020, qui était la phase de divorce, de signer l'accord de divorce et le règlement du divorce. Et là commence la partie la plus intéressante, la plus importante pour l'avenir aussi bien de l'Europe que du Royaume-Uni, c'est de définir la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Parce que l'Angleterre reste physiquement dans l'Europe et reste un partenaire commercial important. Et donc, dans l'accord de retrait, il y a une déclaration politique qui est non contraignante légalement, qui encadre la relation future. Donc pour l'instant, on a simplement, on va dire, une sorte d'accord de principe, voire une déclaration carrément philosophique, et je vais la citer, c'est que les parties acceptent de développer un partenariat économique ambitieux et de grande portée. Ce partenariat sera exhaustif et comprendra un accord de libre-échange ainsi qu'une coopération sectorielle large. Il sera supporté par des engagements assurant un terrain de jeu équilibré pour une concurrence ouverte et juste. Parce que l'Angleterre et l'Union européenne donc, doivent organiser leurs relations futures. Ça passe par un accord de libre-échange. On va revenir sur ce que veut dire un accord de libre-échange. Mais dans cette déclaration, ça veut dire qu'ils veulent plus qu'un accord de libre-échange. Ils parlent de coopération. Il y a juste derrière une ambiguïté dont les Anglais sont assez familiers. C'est que la nature de ces engagements sera proportionnelle aux ambitions de la relation future. Mmh. Et donc, les deux partenaires ont en principe jusqu'au 31 décembre 2020 pour se mettre d'accord. C'est la période de transition. Donc l'Angleterre sort de l'Union européenne, ne peut plus voter au sein des instances européennes, mais les lois européennes continuent de s'appliquer pendant cette période de transition qui peut être renouvelée deux fois un an. C'est-à-dire qu'au pire, au maximum, cette phase de négociation peut durer jusqu'au 31 décembre 2022. Que dans le cadre du débat qui a eu lieu au Parlement au mois d'octobre, Boris Johnson a fait une concession aux députés britanniques en disant que le Parlement britannique serait consulté au plus tard au mois de juillet 2020 pour voir s'il faut utiliser ou pas cette extension. Donc négocier un accord de libre-échange, c'est déjà compliqué. L'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada a mis presque 10 ans. Quand on regarde tous les accords de libre-échange qui ont été faits avec l'Union européenne, en moyenne c'est 7 ans de négociation. Et après, il y a un processus de ratification qui est très long, parce qu'il faut que chaque parlement de l'Union européenne ratifie cet accord. Et donc, c'est pour ça que c'est une phase qui va être longue, mais qui va être capitale pour les deux parties.
Alors, tu le disais, il y a l'exemple canadien. Il n'y a pas simplement l'exemple canadien, il y a l'exemple suisse, il y a l'exemple norvégien. Ce sont trois pays, finalement, qui ont signé des accords spécifiques avec l'Union européenne. Beaucoup de gens disent que finalement la Grande-Bretagne va devoir soit choisir le système norvégien, soit choisir le système suisse, soit choisir le système canadien. Et quelles sont les grandes différences entre ces accords en fait ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Alors ces accords sont les plus connus, les plus importants, mais il y en a d'autres. Sachant que chaque accord commercial représente un point d'équilibre entre deux objectifs, qui est l'accès au marché unique, au marché commun européen, et la souveraineté. Or, le but du Brexit, c'est de récupérer la souveraineté. Si je cite l'objectif qu'a donné Boris Johnson, le gouvernement anglais a l'intention de baser la relation future sur un accord de libre-échange dans lequel le Royaume-Uni prend le contrôle de ses affaires réglementaires et de sa politique commerciale. Donc la Norvège a une relation très étroite avec l'Union européenne parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle contribue au budget de l'Union européenne, à des programmes d'investissement, et en contrepartie, elle bénéficie d'un accès très fort au marché commun. En contrepartie, il faut aussi qu'elle applique la liberté de circulation. Or, il y a deux points qui gênent les partisans du Brexit. C'est l'immigration, que l'Angleterre puisse retrouver le contrôle des flux et de pouvoir retrouver leur souveraineté, ne plus être soumis à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Le Canada...
Donc ce ne serait probablement pas, je dirais, à la norvégienne.
Ce serait très, ça ne correspondrait pas, en tout cas, à l'objectif qu'a Boris Johnson et ses partisans. Sachant que, encore une fois, on va y revenir... Les modèles que tu as donnés sont des pays qui ont une structure économique complètement différente du Royaume-Uni. L'esprit de la déclaration politique dans cet accord de retrait ressemble plus à un modèle Canada Plus, parce que l'avantage du Canada, c'est qu'il ne contribue pas au financement du budget européen. Il y a des restrictions à la liberté de circulation, mais c'est un peu naturel parce que le Canada est assez loin de l'Union européenne, mais que le Canada, dans son accord qui a été négocié, c'est un accord qui vise les biens, à l'exclusion de certains produits agricoles sensibles, type le poulet ou les œufs, mais qui ne couvre pas le domaine des services. Or, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les grandes caractéristiques de l'économie britannique. L'Union européenne représente 46% des exportations du Royaume-Uni. C'est en baisse. C'était 55% en 2006. Et donc, c'est le principal marché pour l'Angleterre. Mais que les services représentent 40% des exportations anglaises. Et que donc, un modèle de libre-échange qui s'axerait sur les produits, les biens, c'est pas adapté parce qu'il y a pour l'Angleterre la question de la City et du passeport européen qui permet de distribuer des fonds dans tous les pays de l'Union européenne. Et si on prend le modèle de la Norvège, ce modèle représente la proximité la plus forte par rapport à l'Union européenne. Mais pareil, il n'y a pas vraiment de logique de passeport financier pour la Norvège. Donc en fait, la quadrature du cercle, la grande difficulté pour la définition de cet accord de libre-échange, c'est qu'il y a des objectifs économiques et une volonté politique. Et que ce sera important de regarder des points comme l'immigration, parce que quand l'Angleterre parle de coopération, bah, typiquement limiter la liberté de circulation des personnes, qui est un des points clés du marché commun, c'est un vrai obstacle pour développer une coopération. Donc, il y a ces modèles, mais il y a aussi d'autres modèles auxquels on peut penser. Il y aura sûrement peut-être une combinaison.
Oui, ce sera un modèle britannique de toute façon.
Voilà, à la carte.
Oui, ils ne calqueront probablement pas. La Suisse, le modèle suisse, il est spécifique de quel point de vue, en fait?
Alors, il est spécifique au sens où la Suisse est membre de l'Association de libre-échange européen.
Services et biens.
C'est services et biens, mais ça ne couvre pas tous les services. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas d'obligation générale d'appliquer toutes les lois européennes, mais un certain nombre de réglementations. C'est-à-dire que c'est en fait partiel, alors que la Norvège applique pratiquement toute la législation européenne, en tout cas la grande partie. La Suisse, c'est un peu moins, mais il faut voir qu'il y a eu des tensions très très fortes entre la Suisse et l'Union européenne, parce qu'il y a eu un référendum il y a 2 ans en Suisse qui vise à restreindre la liberté de circulation des personnes de l'Union européenne, donc des gens qui viendraient en Suisse, qu'ils soient français, allemands, italiens, pour travailler, et que ça a profondément entraîné des tensions. Parce qu'on voit bien, encore une fois, liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des biens, sont les deux grands piliers du marché commun. Et les Anglais ont cette logique mercantiliste. Ils voudraient continuer à avoir accès au marché commun, mais sans contribuer au financement, sans être soumis aux lois européennes. Il y a cette conviction qui est développée par tout l'entourage de Boris Johnson, qui est que le potentiel économique anglais est bridé depuis 25 ans par l'appartenance à l'Union européenne et que ça n'apporterait que des problèmes et aucun avantage. Ce qui, évidemment, qui est pas vrai. Le modèle qui sera choisi doit tenir compte de la spécificité de l'économie britannique, encore une fois, avec une très grande importance des services financiers. On n'a pas d'exemple d'autres pays pour lesquels les services financiers sont aussi importants. Donc les Anglais demanderont un traitement de faveur. Ce qui sera vraiment à l'œuvre dans les négociations, c'est la discussion d'une reconnaissance mutuelle. Donc l'Union européenne est capable, dans certains sujets, d'accorder une reconnaissance réglementaire mutuelle. Elle l'a fait par exemple sur des choses extrêmement techniques comme la documentation des introductions en bourse, équivalence entre les États-Unis et l'Europe, mais c'est décidé de façon unilatérale par l'Europe. Et la crainte, parce qu'évidemment les Anglais vont vouloir dire à l'Union européenne, donc on sort de l'Union européenne, on a une équivalence réglementaire, parce que nos réglementations équivalentes à la vôtre, même si elle est différente, c'est que derrière, les autres partenaires commerciaux de l'Union européenne, Japon, Corée du Sud, vont dire « mais ce que vous accordez à l'Angleterre, on le veut aussi ». Il faut voir qu'en tant que membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni fait partie de 40 accords commerciaux que l'Union européenne a signés avec 70 pays. En quittant l'Union européenne, il faut que le Royaume-Uni non seulement définisse, rebâtisse sa relation future avec l'Europe, mais aussi resigne ses accords avec ces fameux 70 pays. Boris Johnson est très excité par le potentiel d'un accord commercial avec les États-Unis. Il faut voir que rien qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y a plus de 20 accords commerciaux qui régissent des secteurs d'activité et des domaines spécifiques.
Alors avant de revenir juste peut-être sur les négociations et de quoi il s'agit, parce qu'on se rend compte à ce que tu dis que ça va être extrêmement complexe. Donc la probabilité effectivement que la Grande-Bretagne continue à participer au budget européen te semble relativement faible.
Ils vont forcément essayer de minimiser leur contribution financière, parce que même quand ils étaient dans l'Union européenne, ça remonte à Margaret Thatcher, avant que ma monnaie back, ils ont cherché systématiquement à minimiser leur contribution et à avoir des ristournes, des rabais, des rétrocessions. Peut-être qu'ils vont pouvoir essayer de négocier non pas de contribuer au budget général, mais à des programmes d'investissement. Il faut voir qu'une des forces du Royaume-Uni, c'est son système éducatif, ses universités qui sont connues dans le monde entier, mais qui bénéficient de pas mal d'argent européen. Et que ce serait intéressant de voir le fonctionnement de Oxford et Cambridge sans la manne financière de l'Union européenne. Donc, est-ce que l'Angleterre va continuer à faire partie d'Erasmus? Il y a le budget européen, il y a aussi autour tout un ensemble de programmes d'investissement, de programmes long terme. Il y a des industries qui sont extrêmement imbriquées. Et il faut voir que dans un accord de libre-échange, il y a deux choses. Il y a les biens et les services. Si on prend l'exemple du Canada, ça couvre essentiellement les biens pour la partie tarifs. Mais pour les services, c'est plus de la réglementation. L'Union européenne a mis en place tout un ensemble de réglementations. Pour les produits agricoles, c'est très très strict. Les inspections sanitaires sont fortes. Le pilier agricole est très important. Et donc, pour tout un ensemble d'industries, même s'il n'y a pas de tarifs demain qui sont appliqués, pour des industries où il faut travailler en flux tendu, il faut qu'il n'y ait pas des contraintes réglementaires. Sinon, toutes les chaînes d'approvisionnement automobile et autres vont devoir complètement délocaliser vers l'Union européenne.
Mais pour bien comprendre, tant qu'on est dans la phase transitoire donc de négociation, en fait, on reste dans le système plus ou moins actuel, en fait.
Oui, mais qui n'est pas confortable pour le Royaume-Uni, parce que pendant cette période, il n'a plus son mot à dire, et il subit. Et donc, ils ont forcément envie que cette période soit la plus courte possible.
Donc, ce sont des négociations qui sont extrêmement complexes, hein, comme tu l'as dit. Ce sont probablement des négociations qui vont être longues. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hauts et des bas qui peuvent inquiéter les marchés ?
Oui, mais ce ne sera pas du tout la même logique de ce qu'on a vu depuis 3 ans, à savoir des déclarations intermittentes dans la presse avec des dates prévues à l'avance, si ce n'est le 31 décembre 2020. Ce seront sûrement des négociations beaucoup plus discrètes. Et que quand on verra des bruits courir dans la presse, sortir dans la presse, ce sera forcément que se décident des choses importantes où chaque camp essaiera un petit peu de mettre la pression sur l'autre.
Donc on ne retrouve pas en fait la problématique avec laquelle on a vécu sur cette question de Brexit, à Brexit qui a beaucoup pénalisé en fait les actions européennes lors de ces négociations.
Oui, jusque si on se rend compte qu'au mois de juillet, il n'y a pas eu de progrès, il faut que le Parlement demande l'extension de la phase de transition. Et que plus on va se rapprocher vers la fin de cette phase de transition, plus le risque du hard Brexit va revenir, parce que le vrai hard Brexit, c'était pas là. S'il y aurait eu un hard Brexit, s'il n'y avait pas eu d'accord de retrait, mais le fait que l'accord de retrait soit ratifié au mois de décembre, au mieux ou au pire au mois de janvier, n'enlève pas le vrai risque de hard Brexit, qui est au 31 décembre 2022. L'Union européenne et l'Angleterre n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, par défaut, l'Angleterre organise sa relation future sur les termes de l'Organisation mondiale du commerce, qui se traduirait par une augmentation massive des droits de douane, qui se traduirait par, pour le coup, des perturbations sur le commerce, et qui est extrêmement défavorable, aussi, surtout pour le Royaume-Uni, parce qu'on a commencé à voir des estimations qui ont été faites en termes quel impact économique pour quel régime commercial. Si jamais l'Angleterre retrouve les termes de l'OMC, ça enlève à peu près 10% du PIB de l'Angleterre. Si jamais ils prennent un modèle norvégien, la baisse est vraiment très faible, sachant que c'est un impact économique, on va dire, qui est diffusé dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a on perd 10% une année.
Oui,
c'est 10% de richesse par habitant sur le moyen terme.
D'accord. Mais donc, ce que tu dis, en fait, c'est que, bon, plus on va se rapprocher de l'échéance de 2022, si ça dure, plus on va à nouveau s'inquiéter, en fait.
Oui, sauf à imaginer qu'ils se rendent compte que se mettre d'accord sur 2 ans, c'est illusoire, sachant qu'il y a déjà pratiquement 1 an qui a été perdu, puisque au départ, ce processus aurait dû commencer le 1er avril 2019.
Oui, la date butoir n'a pas été modifiée, alors que la date de la signature du Brexit a été modifiée. D'accord.
Voilà, que peut-être qu'ils vont se rendre compte, enfin, ce serait la première fois qu'on ait un accord commercial aussi complexe qui soit négocié aussi vite. Ou alors, parce que c'était aussi ça qui était une source de tension dans la phase première, la phase 1, c'est que les Européens ont toujours dit aux Anglais, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez CETA plus, Norway moins, Suisse plus, Suisse moins? Et les Anglais ont toujours été réticents à dire ce qu'ils voulaient. Il y avait simplement un peu ce fantasme qui est que Boris Johnson veut faire de l'Angleterre le Singapour de l'Europe, baisser fortement le taux d'imposition sur les sociétés, la TVA, parce que en tant que pays membre de l'Union européenne, on ne peut pas fixer arbitrairement son taux d'impôt sur les sociétés, le taux de TVA, et les Européens sont très très sensibles à ce point, et c'est pour ça que dans la déclaration politique qui accompagne l'accord de retrait, il y a cette phrase qui prévoit qu'il y ait un terrain de jeu équilibré avec des règles de concurrence juste et loyale. Ça ne veut pas dire que les Anglais ne vont pas chercher à essayer de s'éloigner de cet objectif, parce qu'encore une fois, et on l'a vu depuis leur entrée dans l'Union européenne, ils ont été très très forts pour avoir une logique à la carte.
Donc période qui reste complexe, hein, même si, comme tu le dis au début, probablement on n'en entendra probablement pas beaucoup parler de ces négociations, mais plus ça durera, plus probablement, certains pourront penser qu'on va sur un nouveau hard Brexit, en fait, hein, avec l'application de ces accords dont tu parlais. Alors, je dirais, on te remercie énormément, encore une fois, de partager avec nous tous tout ton savoir sur ce sujet-là, mais ton métier, en fait, c'est d'être gestionnaire d'échiquier agresseur. Et juste par curiosité, qu'est-ce que ça représente? Des opportunités, des risques? Enfin, comment est-ce qu'on aborde le sujet quand on est gestionnaire, en fait, des négociations?
Alors, les deux, parce que c'est comme pour une entreprise, c'est un reset de son modèle économique et que l'Angleterre a des atouts, notamment sa flexibilité, son ouverture internationale, et un très gros problème qui est exacerbé par rapport aux autres pays, qui est une très faible productivité. Donc, à court terme, ça va faire remonter la livre sterling.
Ça, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Alors, c'est une bonne nouvelle quand on possède des actions britanniques et que notre couverture de devises n'est pas. Notre exposition en devises n'est pas couverte, parce que ça fait remonter la valeur des actions de notre portefeuille. Et encore une fois, je rappelle que le sterling était tombé à 1,08 au mois de septembre, il est à 1,17 et que c'est le bon baromètre. Avant, c'était le bon baromètre pour juger l'issue du Brexit. Et aujourd'hui, c'est le bon baromètre pour juger les résultats des élections à venir le 12 décembre. Il y a beaucoup d'entreprises au Royaume-Uni qui sont intéressantes. Et le marché britannique est un marché très... on avait déjà évoqué le point lors de la conférence téléphonique du mois dernier. Il y a de tout qui est coté au Royaume-Uni, mais l'issue du Brexit a conduit beaucoup d'investisseurs à laisser de côté une grande partie de ce marché. Donc, il y aura deux effets positifs. C'est que ça va faire remonter le sterling, ça va entraîner les investisseurs à reconsidérer ce pays comme potentiel d'investissement. Ça n'enlèvera pas les problèmes de fond auxquels sont confrontés des secteurs comme la distribution, des secteurs domestiques qui sont soumis à des disruptions importantes. Ça n'enlèvera pas le fait qu'il y a beaucoup de fintechs qui sont en train d'attaquer les beaux profits de banques comme Lloyds ou Royal Bank of Scotland. Mais ça va aussi conduire les fonds de private equity de continuer à racheter des sociétés cotées comme ils l'ont fait depuis le début de l'année. Pour moi, à court terme, la plus grosse opportunité, c'est le rebond du sterling qui devrait conduire à des prises de profit sur les valeurs défensives britanniques qui sont dans le FTSE 600, qui sont essentiellement représentées dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la santé. Donc, dans Agressor, aujourd'hui, notre stratégie britannique, elle a deux piliers, d'être sous-exposé à ces valeurs défensives. On a des valeurs défensives, mais qui sont...
J'ai une petite question là qui vient d'apparaître. La Grande-Bretagne, ça représente combien dans Agressor?
La Grande-Bretagne, ça représente 25% du portefeuille, un quart, qui correspond au poids dans l'indice. D'accord. Donc, on ne prend pas un pari de sur- ou sous-pondération à ce stade. On joue plutôt sur le mix, d'avoir un mix extrêmement spécifique sur des sociétés qui ont une composante domestique, comme Balfour Beatty. Balfour Beatty, c'est une société de construction spécialisée sur les grands projets d'infrastructures, donc aéroports, autoroutes, ponts. Parce que quelle que soit l'issue des élections, on aura une relance d'investissement, une relance de grands projets au Royaume-Uni. Et Balfour Beatty en bénéficiera. Et Balfour Beatty n'est pas soumis aux disruptions auxquelles sont confrontés, par exemple, les distributeurs, type Marks & Spencer.
Mais pour revenir sur les négociations, quels sont les secteurs qui sont les plus menacés sur ces négociations, s'il y en a?
Le secteur qui sera au cœur des négociations, ce sera
les services financiers.
Les services financiers et le fait que la City a besoin de garder son passeport européen. Et c'est pour ça qu'on n'est pas exposé aux gérants d'actifs qui sont cotés sur le marché britannique, comme Man Group, comme Standard Life, comme Schroder, parce qu'il y aura ce risque qui va peser à moyen terme. Il y aura un effet à court terme de soulagement. Nous, on ne joue pas cet effet de soulagement sur les titres individuels, on le joue sur la devise. L'automobile est aussi... au cœur des négociations, mais il n'y a pas vraiment de façon de le jouer au Royaume-Uni. L'industrie de la défense aussi sera un sujet. Et donc, c'est pour ça que ce ne sont pas des secteurs sur lesquels on a envie de s'exposer.
Donc, finalement, cette analyse que tu as sur la situation te permet effectivement de positionner tes investissements sur la Grande-Bretagne, qui reste un de tes territoires d'investissement, on l'a vu, puisque... la pondération est équivalente finalement à celle de l'indice, mais ça te permet de mieux te diriger peut-être dans cet environnement.
Oui, que ça va amener, encore une fois, ce qu'on essaie de faire dans l'agresseur, c'est sortir des sentiers battus, trouver des entreprises que le reste du marché ne regarde pas. Et cet exercice est quand même compliqué et assez frustrant quand on est le seul à le faire. Là, on a l'espoir que, encore une fois, c'est le plus gros marché européen. Il y a des entreprises qui sont fondamentalement intéressantes et que les flux étaient pas là et que ces flux vont revenir.
Donc, un marché à surveiller, la Grande-Bretagne, en tout cas pour l'année qui arrive. Bon, les 30 minutes sont passées, Frédéric, ça passe toujours très, très vite. Encore une fois, un grand merci pour tout ce partage. Je sais que c'est un exercice que je te demande à chaque fois, même si ce n'est pas ta spécialité à la financière de l'échiquier. Ceci dit, hein, je le répète et je l'avais dit la dernière fois, je pense que tu es probablement celui que je connais qui connaît de loin le mieux ce qui s'y passe. Donc, peut-être une autre de ces conférences téléphoniques d'ici quelques mois, si les négociations se passent mal, en tout cas, pour pouvoir évoquer la situation. Et puis, en attendant, merci à tous pour votre présence à travers cet exercice de la conférence téléphonique qui commence à devenir récurrent, puisque le prochain, ce sera un sujet tout à fait différent, mais on parlera d'échiquier positif d'impact. Merci, Frédéric.
Merci.